Bonjour, vous écoutez Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM. Et aujourd'hui, nous vous proposons un montage intitulé « Le cauchemar a déjà commencé », réalisé par une camarade de Marseille en 2015.
Il s'agit de la mise en son d'extraits du livre « Au front » de Anne Tristan, sorti chez Gallimard en 1987, mais toujours aussi important.
Ce livre unique est le récit d'une journaliste qui a infiltré le Front National à Marseille pendant 6 mois. Elle y raconte ce qu'elle y a vu.
Donc le montage dure à peu près 36 minutes et du coup on se retrouvera après pour l'agenda militant grenoblois. Voilà, bonne écoute.
Adaptation sonore d'extrait du livre « Au front » d'Anne Tristan. Marseille, 12 janvier 1987, 17h30, rue de Rome. Cette entrée discrète, à peine visible, coincée entre deux devantures de magasins, et celle de la section centrale du Front National. Pour la 20e fois, je passe devant sans entrer. Le déclic se produit. Ma main se décide à tourner la poignée. Je me retrouve face à un escalier aux marches hautes et astiquées. Le local est au deuxième. Je frappe. Les jambes cotonneuses, je m'avance vers 3 hommes assis au milieu d'une grande pièce à peine meublée. Sans interrompre leur conversation, ils me suivent du regard. 2 frôlent la 50aine, un trapu nerveux et un brun à lunettes. Un jeune homme pâle les écoute sans broncher. Je reste planté à côté du bureau. Et d'une traite, comme on se débarrasse d'un poids trop lourd, je leur demande comment procéder pour adhérer. Aussitôt, les 3 visages s'illuminent d'un sourire radieux.
Alors, vous mettez votre nom, votre adresse, votre âge comme c'est indiqué, et puis après vous mentionnez si vous réglez en chèque ou en espèces. Vous avez 3 formules d'adhésion possibles. Une de soutien à 1200 francs pour l'année, une à 500 ou la simple à 200 francs.
Je n'en reviens pas. C'est donc si facile d'adhérer au Front National. 6 mois durant, j'ai songé à cet instant comme s'il s'agissait d'un débarquement sur la Lune. Car j'arrive bien d'une autre planète. Celle des adversaires du Front, de ses détracteurs, qui décèlent dans son sillage des relents xénophobes, racistes, antisémites.
Son nom c'est le PEN, son emblème c'est le FN. Il n'a qu'une ambition, c'est de nous créer des problèmes. Comparé à Hitler, sa mentalité est la même. Il fait la chasse aux immigrés, c'est même pas la peine. Fasciste ou nazi, il prépare des stratagèmes pour pouvoir éliminer toutes les personnes qui le gênent. Il ne fera pas nombreux, Dieu sait que c'est une mauvaise reine. Ceux qui l'auront suivi sont punis au même barème. Ça s'appelle tout, 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 vous serez tous sur les vaches. Pas sur Pandro et de Daguet, Chirac, Le Pen dans le même bateau. Tout, tout.
J'ai donc tout quitté, ma ville, mes habitudes, mes amis, pour vivre au milieu d'eux, dans les mêmes conditions qu'eux, en me faisant passer pour une des leurs. J'ai changé ma vie pour vivre la leur. J'ai voulu les écouter, connaître leur monde, percer ce mystère, leur mystère. Comment en France, des hommes peuvent-ils haïr d'autres hommes, simplement pour la couleur de leur peau, leur origine ? Je devais me déraciner, couper les amarres, partir le plus loin possible. Ce devait être Marseille. Marseille, seconde ville de France et porte de la Méditerranée, où le Front a récolté 25% des suffrages aux législatives de mars 86. Marseille, où ce score, la mort de Gaston Defferre, la crise des autres partis, de gauche comme de droite, lui donne bon espoir de conquérir la mairie en 89.
Le cauchemar a déjà commencé. Le cauchemar a déjà commencé.
Dernier détail à régler. Quel visage et quel passé composé? Il me fallait une situation sociale adaptée à mon lieu d'habitation. J'inventais donc Anne G, dactylo au chômage, fraîchement débarquée à Marseille après une peine de cœur. Avec le nombre de chômeurs sur la ville, une militante sans emploi ne devrait pas trop les surprendre. Pourtant, si j'ai pris l'allure d'une espionne, je n'en ai pas le cœur. Ce n'est pas la volonté de croiser le fer, mais celle de comprendre qui m'a amenée parmi eux. Je veux savoir, tout savoir. Et pour y arriver, prendre le temps de gagner leur confiance. Cette nouvelle peau me fait honte. Mais tant pis, je vais la conserver 6 mois, la durée qui me semble nécessaire pour bien les connaître. Et j'ai peur. À vivre comme eux. Devient-on fatalement comme eux? Pense-t-on fatalement comme eux?
Tout simplement dit qu'ils m'emmenaient au tir pour tirer sur ces fameux melons. Je savais pas ce que c'était que des melons quand j'étais petite. Pour moi, c'était un fruit. Et j'ai su par la suite que des melons, c'était des arabes. Et donc il m'emmenait à ce stand de tir pour m'apprendre à tirer. Malheureusement, je tirais très bien Et il voulait que plus tard, voilà, je tire sur des melons. Il me disait, avec ce flingue-là, à tant de mètres, ce melon-là, tu ne manques pas.
Le 12 janvier 1987, je suis depuis une semaine à Marseille, logé chez une particulière en HLM. La cité, bâtie sur les hauteurs des quartiers nord, est battue par les vents. Il m'a suffi de la voir pour qu'elle se trouvât définitivement rebaptisée Sarcelles-sous-Mistral. Le soir, de retour à Sarcelles-sous-Mistral, une inscription dans l'ascenseur que je n'avais pas encore vue me saute au visage. C'est à moitié effacé. Mais on peut encore lire Le Pen, vite. C'est ce soir que je dois rencontrer les militants du 15e. Claude m'a dit qu'ils se réunissent entre 17h et 19h. Il est 18h30, je dois me presser. 500 mètres seulement me séparent maintenant du local. Sur l'une des deux sonnettes cachées dans l'encoignure, j'aperçois le nom de chef de section, Caron. Je sonne et m'engouffre dans un corridor sombre et sale. Au premier, une porte s'entrouve. Devant moi, une salle étroite, crasseuse, encombrée et 10 regards. À mon arrivée, le brouhaha est inextricable. Maintenant, tout le monde se tait. Dubitatif. Je murmure que je viens d'adhérer au front. Mon interlocuteur, qui répond au nom de Roland, est de plus en plus perplexe. Et il y a des femmes aussi qui viennent militer ici? Roland demande à un homme au cerne gigantesque, le dos voûté par une misère secrète, de me montrer les photos. Sur les clichés, 3 ou 4 minettes sont massées au pied du local en compagnie de quelques-uns des militants présents. Est-ce possible que cette jeunesse si anodine, si banale d'apparence soit lepéniste? Au bout de 10 minutes, l'atmosphère me semble toujours aussi peu respirable. Je fais mine de partir. Un concert de noms explose au signal d'un vieux bonhomme rondouillard, casquette vissée sur le haut du crâne. Un autre enchaîne et rappelle que les premiers pas sont dans n'importe quel domaine toujours difficile. Roland s'y met aussi. Me demande si je suis libre le 14 février parce que le Front National de la Jeunesse de l'arrondissement organise une fête à cette date. Tous maintenant semblent décidés à me retenir. Au fait, vous avez pris votre carte à la rue de Rome alors? Oui, pourquoi? C'est gênant. Il me rétorque par la négative, mais son air ennuyé et ses sourcils en accent circonflexe prouvent à l'évidence que l'affaire est plus grave qu'il ne l'avoue. D'ailleurs, il ne tarde pas à m'expliquer que les sections sont financièrement autonomes. Chacune doit se débrouiller pour remplir sa caisse. Et quand il y a une adhésion sur les 200 francs que les adhérents donnent, il y a 20 francs pour la section. Du coup, même que vous habitez le 15e, c'est eux là-bas à la rue de Rome qui se laissent empocher les 20 francs. Vous comprenez? Je comprends surtout qu'il nourrit une sourde rancœur à l'encontre de ses camarades du centre-ville. Une rancœur qui me paraît impossible d'expliquer par le seul décompte des 20 francs. Le dimanche 25 janvier, j'aperçois d'abord Alessandro et Pertier, immobiles, au milieu de la salle. Engoncés dans leur gêne et leur habit du dimanche, debout, ils encombrent le passage. L'assemblée offre un spectacle varié et les convives ont des goûts divers. L'élégance Dior cohabite avec l'élégance Monoprix. La salle est maintenant pleine. Environ 500 personnes ont pris place. Les élus s'apprêtent à parler. Pascal Arrighi, député des Bouches-du-Rhône, ouvre à maigre feu. Le suivant, Ronald de Perdomo, qui en sus de sa charge de député, est alors secrétaire départemental du Front, cherche et trouve le succès. Le troisième député, Jean Roussel, vient de prendre la parole. Courbé en avant sur le micro, il nous exhorte à repousser l'invasion étrangère. Il s'enflamme, agite les bras comme un épouvantail, tandis que silencieux derrière lui, lentement, s'installe un orchestre de musiciens exclusivement noirs. Dans l'assemblée, plusieurs dos se raidissent. Les hôtesses commencent à distribuer les calettes des rois au rythme syncopé d'une musique tropicale. Durant toute cette journée, je n'ai pas entendu un mot de politique. Je n'ai rencontré aujourd'hui que des gens prêts à me rendre service. Celui-ci m'a aiguillé vers une assistante sociale lepéniste, susceptible de m'aider dans ma recherche d'emploi. Cet autre va essayer de me faire quitter ma cité. Mon monde s'ébranle. Je suis chez l'ennemi, et l'ennemi est gentil. Je m'enfonce sous ma barre de HLM en pensant « C'est vraiment bête qu'il soit si raciste. » Sans aucunement réaliser l'incongruité de ce « si » devant le mot « raciste ». Il m'était venu naturellement. J'étais entrée dans la peau de mon nouveau personnage. Jusqu'à présent, d'une séance à l'autre, l'ambiance à la permanence du 15e est toujours identique. Assis en rond autour d'une table poussiéreuse sur des chaises dépareillées, ils sont le plus souvent une dizaine à discuter de tout et de rien. La conversation n'a jamais de mal à démarrer. L'un ou l'autre, indifféremment, la lance en évoquant un reportage diffusé la veille à la télévision. On y revient toujours. De tous les sujets, c'est celui qu'ils préfèrent. Les Arabes sont la cause de tout mot. Les insultes fusent. Les lamentations aussi. Les abribus brisés. Les cabines téléphoniques en panne. Les portières de bus bloquées. Tout ce matériel détruit, abîmé, c'est la faute aux Arabes. À chaque fois, la même logorée. Des îles, invisibles, menaçants, surgissent de tous côtés. Quand ils les croisent dans la rue, ils font mine de ne pas les voir, ne les voient même pas. Comme si les immigrés, obsédants fantômes, vivaient derrière un écran, dans l'autre monde. Algérie, le mot immanquablement fait mouche. « Ah, on en a vu un là-bas », soupire le gros bonhomme rondouillard à la casquette vissée sur le crâne. Les autres le surnomment le poète. Son nom est Devaert. Il remâche sa guerre et dévide volontiers le fil de ses souvenirs. Le poète est à nouveau debout. Ses yeux brillent, il jubile, son bras s'agite et mime mécaniquement la trajectoire des obus. Il scintille, heureux, comme s'il ignorait que son ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta avait tué. Personne ne dit que cette guerre a été perdue. Personne ne parle de défaite, et j'imagine qu'elle a dû être bien lourde pour qu'on la taise encore près de 30 ans après. La guerre, les événements comme ils disent. Et sous les vagues de rire, la mer de haine est devenue profonde.
Jusqu'au matin dans le fourbi, ça torturait sans foi ni loi, jusqu'à la mort de ses envies, qui finissait encore avec toi. On a fouillé bien des villages, et mis un sac à des maisons, les femmes nous crachaient au visage, alors on frappait sans raison. Même des enfants étaient décis, qu'on embarquait sans ménagement, pour leur faire subir le terrible, supplice pour des renseignements. Faut dire qu'on a vu des amis, égorgés et même bien pires, ça n'excuse pas la barbarie d'une armée et d'un pays. Dans des illusions, nous m'en croire simple aux confions, qu'après les horreurs des nazis, on ferait pareil en Algérie. Alors j'ai camouflé ma peur, et le goût dégueulasse de la guerre, j'ai fait comme si de rien n'était, mon petit soldat bien aligné.
Je côtoie les jeunes, Pascal et Céline, rencontrés à la Galette des Rois. Tous les samedis, Pascal joue au chef et enseigne divers sports de combat à ses amis. Ils appartiennent au service d'ordre du Front National et veulent en être la troupe de choc. Quand il y a une manifestation, ils enfilent le survêtement et les rangers. Au passage, Pascal fustige les autres chefs de groupe, des mous qui préfèrent défiler en costard-cravate. Ce soir, en tout cas, les héros sont fatigués. Ils ont joué à la guéguerre tout l'après-midi au Parc Saint-Loup et se sont même entraînés au combat au couteau. C'est l'heure des confidences. Félix et Pascal parlent de leur famille. Son frère travaille au Japon, au noir la plupart du temps. Il est parfois clandestin. Quand son autorisation de séjour expire, il est obligé d'aller en Corée ou aux Philippines, le temps de renouveler son visa.
Mon frère, c'est un arabe au Japon.
Il a dit cela sans acrimonie et reste un instant songeur. Tout le monde le regarde attentif. Serait-il en train de sympathiser avec ce frère ? Céline fait déjà une moue désapprobatrice.
Un arabe, c'est un arabe et c'est tout.
Ça c'est ce qu'ils pensent quand ils parlent de nous ici, comme si les noirs et les arabes tombaient du ciel cachés derrière la pluie, en faisant du trafic de bulletins météo. Vite range tes théories, t'es trop un blaireau. Hey, arrête ton baratin à 2 francs, car si la vie était un match de foot, tu serais un coup franc, un coup foireux, une erreur, une faute commise. Arrête de te la péter, de façon ta France c'est pas la terre promise. En plus, j'ai une idée pour le chômage, si on virait tous ceux qui votent FN, ça ferait du ménage, hein. C'est une idée parmi tant d'autres et j'en ai des tas. Chaque fois que j'écris un texte, faut qu'ils en fassent une affaire d'état. En plus, ça déteint sur leurs bambins qui écoutent la radio, et quand le fils rappe un texte de femme, le père a l'air idiot. Tant pis pour lui, aussi, car Jeff chante et la mère kiffe aussi, et puis sa fille aussi, donc le CD faut qu'elle lui prête aussi. Et à l'instar de Stockard, on peut communiquer, on lui laisse la connerie, le bleu, blanc, rouge, on sauve l'humanité.
Peu à peu, je me familiarise avec les militants de mon quartier. Le scénario est en effet toujours le même. Chaque lundi et chaque jeudi, Alessandro descend vers 17h de son bloc de HLM et, planté sous un abribus, attend l'automobile blanche de Devaert, le poète. Ensemble, ils filent vers la section qui, à vol d'oiseau, est à moins d'un kilomètre. Alessandro a combattu dans les rangs de l'OAS et n'a été amnistié que récemment. Il est retraité d'une société de convoi de fonds et a élevé 9 enfants. Le poète est le plus bavard de tous. Belge d'origine, il s'est engagé tout jeune dans la Légion, qu'il a quitté au bout de 18 ans de service. De ses 1m60, il prétend avoir maté les testards, les têtes dures. Il a ensuite ouvert un restaurant vietnamien avec sa femme indochinoise. Depuis, il se surnomme le chinois belge. Redzi, taciturne, ne se confie à personne. Quand il sort de son épais silence, c'est pour lâcher Bougon et Laconique. Faut rallumer les fours, y'a que ça à faire. Il n'explique jamais, et personne ne relève. Je ne saurais rien de lui, si ce n'est qu'il a été manutentionnaire avant d'être licencié. Pertier est aussi mystérieux, mais par pudeur, semble-t-il. Un triste sourire est toujours collé sur ses lèvres. Les premiers temps, les 3 autres militants réguliers de la section retiennent moins mon attention. Albert le boucher ne passe que le lundi, jour de fermeture de sa boutique. Durand, ancien légionnaire, lui aussi. Et Takis, à la cambrure de Torero, ne reste jamais plus d'un quart d'heure. Roland n'hésite cependant pas à proclamer qu'il dirige la plus grosse section de Marseille. Début février, lassé de l'entendre évoquer ses cohortes d'adhérents invisibles, je jette un coup d'œil au fichier où sont consignés leur identité, âge, adresse et profession. Plus de 180 noms y sont répertoriés, dont une douzaine seulement de femmes. L'une est médecin, les autres sont sans profession ou femmes de service. Côté masculin, le salariat l'emporte aussi. C'est le royaume des petits employés. Une quinzaine seulement se disent artisans ou commerçants. Pour le reste, les guichetiers de banque, des PTT, de la SNCF, le dispute aux vendeurs des grands magasins, aux convoyeurs de fonds et ouvriers qualifiés du bâtiment. Je m'étonne de ne trouver que 10 chômeurs déclarés et m'inquiète de recenser une quinzaine de policiers travaillant dans le commissariat du quartier. Additionnés, les retraités et les moins de 25 ans représentent à peine le 1/5 du bataillon. La moitié a entre 35 et 55 ans. Le portrait type de ces adhérents est celui d'un Français banal, actif, salarié, installé dans la vie. Le front n'a rien à voir avec un club du troisième âge ou une farce étudiante. Ceux qui persistent à le dire et à le croire prennent des vessies pour des lanternes. En fait, l'efficacité de ce militantisme-là est d'ordre thérapeutique. Un petit bol d'air dans un univers désertique. On se réchauffe entre soi. On se délivre des satisfacies incessants. On exécute le reste de la planète. Les autres. Et les autres, c'est un vaste ensemble où l'on fourre pêle-mêle tout ce qui est extérieur au front. Et même à la section. On aime rester en famille. La fête du FNJ, le 14 février, s'annonce de la même veine, familiale. Elle se tient au sous-sol d'un hôtel, une bâtisse désuète des années 30. Le cadre est champêtre et l'hôtel situé sur le territoire quasi campagnard des Pennes Mirabeau. Les invités tardent à venir. Soudain, une ombre bruissante et affolée traverse la salle. C'est Didier qui revient précipitamment d'un petit tour au rez-de-chaussée de l'hôtel. Il voulait faire un brin de causette avec le patron, mais il a le hoquet, bégaye. Il a vu des hommes armés. Personne ne comprend rien à ce qu'il dit. Les autres se laissent gagner par la peur. Les communistes ont peut-être eu vent de leur soirée. Ils veulent peut-être la perturber. La fille aux gitanes veut en avoir le cœur net. Elle contraint Sylvain à la suivre. Ils réapparaissent très vite, pas les crispés. De toute façon, il faut oublier l'incident. Les invités sont arrivés d'un seul coup et se massent déjà au comptoir. Ils sont une 60aine. Je m'inquiète. Combien serait-il si Sylvain avait envoyé ses invitations à temps? Puis me réjouis. Avec des militants aussi peu dotés du sens de l'organisation, le front est une baudruche qui se dégonflera vite. Au retour de la soirée, je noterai dans mon journal qu'il ne faut jamais se réjouir trop vite. Le lendemain, c'est gueule de bois pour tout le monde et corvée de nettoyage. Les langues ont beau être pâteuses, elles se délient rapidement. Le père de Sylvain, Caron, raconte avec fougue le droit de réponse de la veille, l'émission de Michel Polac. Durand éructe en entendant ce nom. Il se demande pourquoi. Personne ne l'a encore flingué celui-là. Pourtant, insinue-t-il, on a tout ce qu'il faut au front. La phrase suscite une association d'idées chez Takis. Il repense à l'embrouille qui a perturbé le début de la fête. Le hasard a voulu qu'il fût au cœur de l'action. La veille, en arrivant, il est allé saluer le patron de l'hôtel, qu'il a découvert aux prises avec 3 racketteurs. Autour de Takis, les autres forment un cercle. Lui demandent de tout raconter.
Si j'avais su ce qu'allait m'arriver, je venais à l'hôtel avec mon calibre et je tirais dans le tas. Ça aurait été rien que de la légitime défense. Après, avec le patron, on arrangeait tout. On leur mettait mon calibre dans la main, on faisait croire qu'ils s'étaient tués entre eux. La police, elle, pouvait rien dire.
Sylvie, qui depuis quelques minutes l'écoute l'air de ne pas s'en laisser compter, se décide à le moucher.
Taki, c'est comme tous les hommes du front. Il parle beaucoup et agit peu.
De toutes mes forces, je voudrais la croire. Mais hier soir, Roland évoquait quatre Arabes auxquels il aurait volontiers troué la peau. Roland, Takis, Albert et d'autres s'entraînent régulièrement au stand de tir. Et si un jour, lassé d'exécuter les immigrés à coups de mots, il laissait partir le coup de feu.
Environ 15 000 personnes dans les rues de Marseille. Dans leur bouche, des slogans hostiles au Front National. La manifestation se voulait au départ silencieuse, mais la colère a pris le pas. Pourtant, pas de débordement, chacun est resté calme.
Tout le peuple est venu dans toute la France manifester sa peine, son mécontentement et son envie de changer. Cette fois-ci, c'est la dernière fois que le Front National a tué.
Cet après-midi, SOS Racisme et la famille d'Ibrahim ont décidé d'engager le combat contre le Front National devant la justice.
Le code pénal nous donne toute la possibilité d'impliquer le Front National et de le faire mettre en examen pour qu'il réponde, en tout cas son représentant légal, pour qu'il réponde devant la justice française des actes qu'il a pu commettre.
Les trois meurtriers présumés ont été mis en examen et écroués hier soir. Tous les proches d'Ibrahim espèrent que la justice sera rapide et exemplaire.
Le front a fait le plein de ses voies naturelles, a ratissé tous les anciens de l'OAS, les pieds noirs, la majorité des royalistes et des intégristes. S'il reste des voix à récolter, ce ne peut être que sur le terreau des déçus du gouvernement. Roland est persuadé que là résident les derniers électeurs potentiels. Pour convaincre les indécis, il va falloir jouer serré et surtout ne pas les effaroucher. Ses consignes en la matière se précisent à l'approche du 4 avril, date à laquelle Le Pen doit venir défiler à Marseille. Plus la date se rapproche, plus les militants de la section se mettent à développer cette phobie de l'extrême-gauche. Tous détestent Grivine et sa clique, et plus généralement, les gauchistes crasseux. Ils se souviennent avec dégoût des contre-manifestations qui ponctuaient les meetings de leurs dirigeants au début des années 80. Les médias aussi les exaspèrent. Ils maudissent les journalistes qui filment les violences de leurs défilés. En somme, ils craignent comme la peste tous ceux qui les désignent du doigt, et les montrent sous un jour contraire à celui qu'ils désirent. Le brave français, victime, maltraité et gentil. Quelques jours avant la manifestation, Durand, l'ancien légionnaire, sème la panique. Cette fois, c'est sûr, il faut s'attendre à un rassemblement de SOS Racisme. L'explosion d'une bombe dans le local n'aurait pas causé plus de dégâts. Chacun bondit de son siège. Il se lamente, puis se rassure, se disant que les Arabes auront du fil à retordre s'ils veulent attaquer, puisque la Légion et les parachutistes ont déjà annoncé leur participation au cortège. Et puis, ajoute Roland, il y aura les flics. Les flics, à 80% ils sont pour nous. Plus que quelques jours, et la canebière sera reprise. Reprise peut-être, mais pas sans combat. Le Provençal, le quotidien de tendance socialiste, annonce pour le même jour deux rassemblements antiracistes, l'un sur le Vieux-Port vers 11h, l'autre à Belzunce vers midi. Je descends donc de bonne heure au centre-ville. Des bruits de slogans martelés me heurtent bientôt le tympan. Ce doit être la manifestation antiraciste. Je me dirige vers elle. Mais à l'ombre de ces ruelles qui s'entrelacent de part et d'autre, dans la célèbre avenue, j'aperçois bientôt, stupeur, Pascal, en survêtement noir à la tête d'une petite troupe déchaînée. Tous viennent en effet de la capitale, pour casser du raton. C'est à ce mot qu'on sait qu'ils ne sont pas du cru. Ils ont tout juste 20 ans, et marchent la tête haute, en hurlant. Le point de départ de la manifestation est situé 100 mètres plus haut. Des militants d'autres départements sillonnent les alentours. Ils parlent haut et fort, bousculent les piétons, s'excusent encore. Dans quelques heures, ils ne s'excuseront plus. 500 personnes piétinent déjà au pied du rassemblement sur le cours Puget. Roland est sur son 31, costume bien coupé et nuque dégagée. Il trépigne. Une Jeep qui fonce dans la foule manque de nous renverser. Au volant, le chef de la section de la rue de Rome, en tenue de parachutiste. Caron me croise, puis poursuit sa route en relatant à son compagnon le contenu d'une émission entendue le matin même.
C'était sur Radio Galère, tu sais la radio des gauchistes, soi-disant que Le Pen c'est un fasciste, il a torturé en Algérie, etc. Mais moi je vais leur téléphoner demain, et je vais leur dire « Ah, je suis communiste, et j'ai drôlement aimé votre émission. J'ai regretté qu'une chose, qu'on n'ait pas parlé de Mitterrand et de Marché. Parce qu'on nous traite de collabos, mais on oublie toujours de dire que l'un, il a eu la Francisque, et que l'autre, il a travaillé en Allemagne. »
Une rumeur se répand soudain à la vitesse de la lumière. Le Pen arrive, Le Pen arrive. Une vague déferlante m'entraîne. Je ne vois plus que des épaules, des nuques. C'est l'asphyxie. Je donne des coups de coude, j'en reçois. Le point stratégique, le lieu magique où le fleuve est soudain saisi de convulsions, c'est l'entrée de la Canebière. La Canebière, l'avenue mythique, symbole de Marseille, qui dans les fantasmes occupe la place de choix. Les manifestants s'y engagent, plus guerriers que jamais. Les bouches se tordent, les visages se crispent. Des cris jaillissent des poitrines jusqu'ici paisibles. Des rafales d'applaudissements saluent notre passage. Entre les bravos, quelques vieux immigrés restent figés. Parfois, un jeune vient nous lancer une insulte comme il lancerait un cocktail et s'enfuit. Moi aussi, désormais, je remarque les différences de couleur de peau. Pas un seul blanc pour s'affirmer contre nous. Un sourire ironique et suffisant nous signifie parfois que nous sommes imbéciles. Rien d'autre. Nous sommes maintenant près de 10 000. Le Pen est déjà en haut de la Canebière. Enfin, je vois un radeau dans ce naufrage. J'entends une voix contre Le Pen. Là, à contre-courant des manifestants. Fragile, menu. Une petite vieille résiste sourdement, obstinément, murmure le chant des partisans. La petite vieille est bousculée, ballottée, déjà loin derrière moi. En marge du cortège, Caron joue les mouches de coche et scande, teigneux, les slogans que la troupe du 15e reprend d'une même voix. La Marseillaise, ça et là, est entonnée à plein poumon. Nous courons presque maintenant. Sur le trottoir, à droite, deux militants de la DPS secouent une maghrébine contre une palissade de chantier. Plus elle crie « contre français », plus les deux hommes la secouent. Personne ne lui porte secours. Un CRS intervient et prie poliment les deux excités de rejoindre le courant. La femme reste seule à pleurer. Nos pas se précipitent encore. Belzins n'est plus qu'à une dizaine de mètres. Plus personne ne chante. Le cours apparaît sur notre gauche, et avec lui, une première rangée de CRS qui nous tourne le dos. Puis, une seconde rangée de CRS, toujours de dos, lance grenade à la main. Silence. Le cortège ralentit sa marche. Tous les regards sont tendus vers Belzins. J'ai l'impression que nous nous arrêtons, mais le carrefour lentement glisse de notre vue. Soudain, quelqu'un m'agrippe le bras, me fait trébucher. La voix est affolée. Le doigt pointé vers le petit croisement suivant. Là, pas de CRS, mais une cinquantaine de jeunes, le poing hérissé, se retiennent de briser la chaîne que trois ou quatre des leurs ont formée pour les contenir. La forêt de poing tangue dans notre direction. Je les dépasse. Derrière moi, un cri. Le cortège s'arrête. Un second cri. Je me retourne. Je suis seul. Électrons en folie déviant de leur trajectoire. Tous, tous sans exception. Les jeunes, les vieux, un boiteux, Albert, Devaert, Durand. Tous se précipitent vers l'étroite rue, gagnée par une paranoïa collective. Du petit groupe, seule une insulte a fusé et la rumeur colporte qu'il nous agresse. Le fleuve est maintenant torrent. Il bouillonne. Les manifestants giclent sur les trottoirs comme des éclaboussures. Véronique passe devant moi comme une flèche. Elle aussi. Sans s'arrêter, elle hurle son délire. Ils attaquent. Fini la bonhomie, la sympathie. Le racisme obsessionnel des discours. J'avais fini par croire qu'il s'agissait chez elle, comme chez les autres, d'une thérapie contre les blessures que je devinais. C'est fini. Devant moi, les visages sont tendus, transfigurés par la haine. Les petites haines que chacun portait en soi, mises bout à bout, ont abouti à cette déferlante qui maintenant les possède, noie chacun d'eux. C'est la 25e heure, l'heure qui selon Le Pen ne se produit jamais, l'heure à laquelle les lepenistes les plus calmes, sous l'effet de masse, passent à l'acte. Les interdits sautent. Cette foule va peut-être tuer, et les meurtriers resteront anonymes. Véronique revient en courant, puis les autres. La plupart se plaignent de n'avoir pu toucher l'ennemi. Demain, la presse donnera le bilan de ce premier accès de folie. Un Algérien de 30 ans, frappé au sol, aurait dû être hospitalisé. Roland a décrété qu'il valait mieux rester groupé, au cas où ils attaqueraient. Ils foncent vers un Porsche où déjà un essaim de type s'agglutine. Demain, la presse nous apprendra que ce blessé-là, un Martiniquais, a également dû être transporté aux urgences. Autour de nous, la police, la majorité des CRS qui remontent dans leur car, fraternisent avec les manifestants, leur adressant des saluts amicaux et une fois derrière les vitres blindées, continuent en faisant lever de la victoire. Les manifestants s'extasient. Deux motards coupent la route à Roland, aperçoivent son écusson de DPS et lâchant le guidon d'un même élan, dressent tous deux le pouce en l'air.
La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Hey, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonnes veines jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonnes veines jusqu'aux égalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouvent rassemblés presque tout le genre humain.
Nous sommes le 11 avril, et voilà 2 mois que la section a retenu cette date pour donner sa soirée. J'ai réussi à m'enfuir quelques minutes dans un songe où le FN n'existe plus, n'a même jamais existé. Et la voix de Père Domo vient soudain percuter mes douillettes divagations.
Je vous le dis, s'il existait un procureur dans cette ville, nous n'aurions pas besoin de porter plainte. Radio Galère devrait être interdite. On ne peut pas tolérer que des gens appellent leurs auditeurs à la lutte armée.
Le lundi précédent à la permanence, Roland a vaguement parlé d'une émission qu'il n'avait pas entendue, mais que son voisin lui avait racontée. Depuis, les propos de cette station ont été colportés dans tout le quartier. Les députés, se fondant eux aussi simplement sur la rumeur, disent qu'ils vont étudier les moyens de porter l'affaire en justice. Tous mes voisins de table préconisent des solutions beaucoup plus radicales.
Je me rappelle, ce jour-là, la peur, comme un 100%, collaborer avec l'envahisseur, moi dispatché, avec le rap, j'en place complexe, vrai, potasse, dont on s'aime de sel. Tu vois le genre de mec, la cervelle en se moule, qui rapplique avec la croix de feu et la cagoule, où le drapeau bleu, blanc, rouge, bouge de la couche, toi, et dans la tronche vite que tu touches. Pour le peine, j'exige une pénalité, ouais, pour avoir essayé de tuer notre identité. L'entité extraterrestre à Kenaton, attaque en force, ensuite ordonne. L'imminence du flot des guerriers cathares qui viennent se venger, arrivant de la planète Mars.
Nous roulons tranquillement en direction du centre-ville où nous avons décidé d'aller boire un verre. À l'avant de la voiture, Véronique et Julien ricanent. Ils voudraient rencontrer un arabe histoire de l'ennuyer un peu. Je me cale dans le fauteuil arrière fatigué. Soudain, au loin, dans la rue grise de brume, Véronique aperçoit une ombre. La voiture fonce encore. L'arabe est dans la lumière des phares. J'entends leur rire. Je crie et sens un choc. C'est celui d'une embardée. Julien vient d'éviter sa cible de justesse et reprend sa route à petite vitesse, en gloussant de satisfaction. Derrière nous, la silhouette de l'homme, resté appuyé contre un mur, se rétrécit dans la nuit. J'ai été complice de leur violence. Personne ne va me demander de compte. Demain peut-être, je serai complice d'un meurtre.
Combien coûte chez vous l'intégration?
Chez vous l'intégration,
sans de petits coups.
Personne ne découvre,
j'ai une vraie solution. Oh, oh. C'est leurs idées qu'il faut nettoyer. Je m'adresse à vous pour que vous soyez. Now. Les politiques veulent nous broyer. Pendant que leurs gosses vont choyer. Now. C'est leurs idées qu'il faut nettoyer. M'adresse à vous pour vous soigner. Les politiques veulent nous broyer.
En prenant leurs cartes, les nouveaux adhérents se doutent rarement qu'ils vont apprendre à banaliser le nazisme et parfois même la solution finale, à vivre au milieu de ces références putrides, comme des poissons dans l'eau. Les propagandistes zélés exercent souvent une réelle fascination sur leur entourage. D'abord, ils parlent bien. Et en outre, ils en savent souvent beaucoup plus long que le militant moyen. Les beaux discours bercent, leurs lectures, plus nombreuses que la moyenne, éblouissent. Ces militants-là ont un goût plus réfléchi que les autres pour la violence. Pour Jean-Pierre et Roland, le Ku Klux Klan est un modèle d'organisation. Tous deux se vantent d'avoir la carte de ce mouvement américain. De même, si en public, ils tiennent à démarquer le front des groupuscules militarisés d'extrême droite, en privé, Il laisse entendre que les frontières ne sont pas nettes. Le génie de Le Pen, m'a expliqué Jean-Pierre, le jour où j'ai découvert sa carabine, c'est d'avoir choisi la voie des élections.
En procédant calmement, on fera mieux passer nos idées. Regarde, si tu tues un arabe quand Le Pen il fait 0,5%, t'as tout de suite le tollé, on te traite de raciste. Quand on est à 15%, les gens déjà, ils crient moins. Alors il faut continuer, et tu verras, à 30%, les gens ils ne crieront plus. C'est pour ça que pour l'instant, faut faire attention à ce que tu dis.
J'ai quitté Marseille le 23 mai 1987, tuant Anne G., la chômeuse sans histoire.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 FM et vous écoutez Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. On vient d'entendre un montage d'extrait du livre Au front de Anne Tristan. Merci beaucoup à Val qui l'a réalisé et nous a autorisé à le diffuser. Maintenant, on va écouter une chanson de Diams qui s'intitule Marine pour rester sur le même thème. Puis nous retrouverons l'agenda militant. A tout à l'heure.
Marine. Ce soir ça va mal, j'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que t'y es pour quelque chose, t'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais. Moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis, parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde, j'emmerde. J'emmerde qui? Moi j'emmerde.
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 J'emmerde
qui?
Moi j'emmerde.
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 J'emmerde
qui?
Marine, tu es victime des pensées de ton géniteur. Génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aînée et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix, Marine. Tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Penser que le blanc ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine, parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais. Et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde.
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 Qui?
Moi j'emmerde.
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 Qui?
Moi j'emmerde.
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 Qui?
Moi j'emmerde.
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 J'emmerde. Que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif, des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial, Marine. J'aimerais tellement que tu m'entendes, je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre, Marine. Tu t'appelles Le Pen. N'oublie jamais que t'es le pro.
y arrive et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde,
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 j'emmerde.
Qui
moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui moi j'emmerde,
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 j'emmerde.
Qui
on va passer à l'agenda grenoblois. Et du coup, bah, on vous propose quelques événements. On vous propose d'abord de commencer par aujourd'hui. C'est une journée pour rendre visible l'histoire des résistantes lesbiennes, cis et trans. Et c'est organisé par le collectif Queer Code. Et du coup, ça a commencé depuis ce matin, mais on vous propose de se retrouver à 14h au musée de la résistance et des déportations de l'Isère, 14 rue Hébert à Grenoble. Il y a un atelier participatif, menons l'enquête. À partir de dispositifs ludiques, nous chercherons et partagerons les traces des femmes qui ont aimé des femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, de 17h30 à 19h, il y a la projection du documentaire « Où sont nos amoureuses ?» de Robin Huizinga. La séance est gratuite. Et ce film, construit à partir de documents et d'archives situés dans les années 1930 et 1940, raconte la quête de la réalisatrice aujourd'hui pour rassembler les traces des parcours et des amours d'Emma Pitoiset, sa grand-mère, et de Thérèse Pierre. Et ça se passe au magasin des Horizons, site Bouchaillier-Vialet, 8 Esplanade André-Farcy à Grenoble. Alors ensuite, on vous propose de se retrouver le mardi 4 février de 18h à 20h. Et en fait, ce sera la revue de presse contre les frontières. Et c'est comme tous les premiers mardis du mois. Voilà, et ça se passe au local autogéré 7 rue Pierre Dupont à Grenoble. Ensuite, nous avons le vendredi 7 février à 18h un événement qui s'appelle « Nous voulons des coquelicots ». En fait, il s'agit d'un rassemblement contre les pesticides, une agriculture et un système productiviste destructeur de la nature et de notre société. Donc voilà, c'est un rassemblement place Félix Poulat à 18h et c'est notamment à l'appel du CIP. Et ensuite, nous vous proposons de se retrouver le samedi 8 février pour une journée contre les frontières, les États impérialistes et leurs politiques racistes. Et du coup, ça commence, d'abord vous écouterez notre émission de radio, évidemment, et qui portera sur le patio solidaire, voilà. Et une fois que vous aurez fini de l'écouter, et ben rendez-vous à 14h au départ de la gare de Grenoble pour une manifestation contre les frontières. Et ensuite, à 18h, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'exposé mis en scène sur la guerre aux frontières, une bataille coloniale. Et ensuite, il y aura un petit débat. N'hésitez pas à venir, c'est super bien. À la fin de cet exposé, il y aura à 20h des pizzas et aussi un petit débat. Et du coup, ça se passe à la salle 150 à la Villeneuve. C'est au 90, Galerie de l'Arlequin. Et c'est organisé par la Coordination contre les frontières 38, le Patio Solidaire, la Bruyère Solidaire, et le collectif des Soudanais de Grenoble, le collectif des Jeunes Majeurs, le FUIQP 38, qui veut dire Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, et puis Survie Isère. Voilà, du coup n'hésitez pas à venir, ça va être vachement bien. Du coup, vous pourrez retrouver toutes les informations qui concernent l'agenda sur le site le-tami.info ou alors sur le site cric-grenoble.info ou aussi sur le site du CIP, ça veut dire Centre d'Information Interpeuple. Voilà. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter, vous pourrez nous retrouver sur le site en podcast, le-tami.info ou alors aussi sur le site de Radio Campus Grenoble. Voilà, et puis du coup, bah, pour les prochaines émissions, on se retrouve le 8 février pour une émission qui portera sur le patio solidaire. Voilà. Et sinon, le 15 février aussi, vous aurez une émission sur le franc CFA. Voilà.
Et ce sera toujours de 13h à 14h sur Radio Campus.
Et en hommage à la journée autour de la visibilité des lesbiennes résistantes, nous allons nous quitter en écoutant la chanson des Lesbians in Ecstasy qui s'appelle Sisters in the Struggle. À bientôt.
Bon week-end.
Au revoir.
hundred centuries. Are you listening to